Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. C'est Côté Club, la quotidienne, votre magazine de toute la scène française et plus si affinité. Ce soir, I am very glad to meet Mathieu Bogart. Hello Mathieu.
Hello everyone.
Très bien. And you too, Slim Paul, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Mathieu Bogart, en anglais, ça donne un album, le 8e, écrit au sud de Londres, à Paxton. On comprend toutes les paroles, l'accent est terriblement français. Un album de pop spirituel au sens de plein d'esprit, comme une éclaircie dans le fog anglais, un titre en live rien que pour nous. Deuxième album pour Slim Paul, Good For You, un album blues mais pas triste, plus soul, avec une teinte gospel, 12 titres qui se jouent des codes, à l'image d'un titre Amazing, qui commence sur l'air de Amazing Grace et qui bascule dans le rhythm and blues. Marion.
Coup de fil à Alex Baupin, dandy nostalgique de la chanson française, qui rend hommage à un autre dandy, Canaille celui-ci. C'est le Serge Gainsbourg de l'album Love on the Beat, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. On en parle vers 22h30.
Voilà, vous savez presque tout, alors maintenant, on entend tout, bienvenue au club.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Mathieu Bogart, Slim Paul, deux univers totalement différents, pop pour l'un, soul et blues pour l'autre, deux voix, on va l'entendre à l'opposé. Est-ce que vous vous connaissiez avant d'entrer dans la loge tout à l'heure ?
Non. Non. C'était un plaisir de rencontrer Mathieu.
Très bien. Alors, on va faire connaissance ensemble. Parce que tous les deux, vous signez aujourd'hui en solo, mais il y a une histoire de groupe dans le passé. Premier groupe, à quel âge pour vous, Mathieu Bogart ?
Premier groupe, 1981, donc 11 ans. Je vous laisse faire le calcul.
À 11 ans, vous aviez un groupe ?
Tout à fait. Un petit groupe qui s'appelait Made in Caman. C'était un jeu de mots.
Déjà ? Ah ouais, ouais. Made in Caman.
J'aime pas trop les jeux de mots en général, d'ailleurs. J'ai eu ma période de jeux de mots entre 11 ans et 16 ans, on va dire.
Après,
j'ai...
D'accord, c'est votre période de Raymond DeVos, quoi.
Voilà.
Très bien.
Et le deuxième groupe s'appelait Tam Tam, et c'était aussi un jeu de mots, c'était avec Mathieu Chédid.
Ok. Quel
Matt, réper... Matt, dans un... en regardant Matt, Tam Tam dans un miroir, ça faisait Matt Matt.
Ah, c'était pas mal. Ouais. Oui, Mathieu Bogart et Mathieu Chédid. Ah oui, j'avais même pas compris au départ.
C'est ça que je me suis permis de préciser.
Oui, non, mais bien sûr, excellent. Et quel était le répertoire à l'époque, déjà pop, déjà les...
C'était des chansons que j'écrivais moi, pour le, en l'occurrence. Et c'était chouette. Enfin, c'était avant ma première chanson phare, avant la première chanson que j'ai écrite qui m'a vraiment donné des ailes, on va dire, qui s'appelait Super, que j'ai écrit en 91.
Super, c'était le titre du premier album,
et qui est sorti 4 ans après.
Ouais, en 96.
Et en 91, j'ai écrit cette première chanson qui m'a vraiment. Je me suis dit, ah là j'ai trouvé quelque chose. Cette chanson me ressemble et elle a une pertinence et une légitimité pour aller sur les ondes et dans les oreilles des gens.
Et vous ne vous êtes pas trompé. C'est comme ça que ça a fonctionné. Pour vous, Slim Paul, premier groupe, à quel âge ?
C'était en 2002, j'avais donc 18 ans. Le groupe s'appelait Le Mélange. Et je chantais en français. J'ai mis du temps avant de trouver ma voix, en fait, en anglais, avant de trouver vraiment mon style. Et puis, j'ai mis du temps avant de découvrir vraiment ma voix dans le blues. Donc je me suis un peu cherché pendant quelques années, puis après j'ai créé un groupe qui s'appelait Scarecrow.
Alors ça, c'était un groupe énorme, on en parlera tout à l'heure, un groupe qui a eu 7 années d'existence à peu près.
Ah ouais, un peu plus.
500 concerts, enfin, c'était vraiment le groupe ouais. Très, très important. Et le premier, Mélange, il y avait un mélange de quelque chose ?
Ouais, un mélange de...
Je vous vois désespéré, je vois votre regard complètement perdu.
Non, je m'attendais pas à parler du mélange à France Inter. Mais ça me fait plaisir. Et c'était un mélange de toute personnalité. C'était un groupe de jeunes potes, quoi. Voilà, on se cherchait tous. On faisait du reggae, on faisait du funk, on faisait de la pop, on faisait de la chanson. Voilà.
J'adore le nom, en tout cas.
Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est vrai, sans aucun jeu de mots.
Excellent.
Je vais vous proposer 4 titres pour 4 ambiances et vous allez me dire à qui ça correspond. Le premier. The Clandestors, ce serait pour qui ? Pour vous, Slim Paul, ou pour vous, Mathieu Bogart ?
Proms.
Ouais, pour vous alors. Ouais.
Non, j'adore ce groupe, c'est marrant parce que je connaissais pas ce morceau.
Non plus.
Gladiators, oui, c'est vraiment un groupe sur lequel je reviens toujours, tous les 3 ans, je me refais les 10, j'adore. Et c'est mes parents qui écoutaient ça quand j'avais 7, 8, 9, 10, 11 ans. Enfin, 8, 9, 10, 11, 12 plutôt.
Premier concert que vous ayez vu d'ailleurs, je crois que c'était eux.
Tout à fait, c'était.
Votre père vous emmenait à 11 ans, 7 ans,
en fait,
11 ans.
J'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a eu très jeune, à 20 ans. Et du coup, quand j'en avais 8, il y en avait 28 et on allait voir des concerts de reggae à Paris. Donc, mes premiers souvenirs de concert, c'est moi avec mon père, aller voir les Gladiators, les Black Uhuru, les machins, enfin tous les groupes.
Et qu'est-ce qu'il en est resté dans vos compositions, de ce goût pour le reggae?
Alors, je sais pas, parce que la composition, c'est comme un processus assez inconscient. Je ne produis que ce que. Ce n'est que la digestion de ce que j'ai pu écouter, mais j'ai pas de. Je sais jamais trop d'où vient l'influence, et dès que je sais d'où ça vient, ça a tendance plutôt à me bloquer parce que j'ai l'impression de reproduire quelque chose. Donc le reggae est certainement important, mais je sais pas vraiment pourquoi, si ce n'est que dans le reggae il y a beaucoup d'air, beaucoup de silence, et pour chanter une chanson c'est très confortable.
C'est quelque chose, c'est un titre qui aurait pu fonctionner pour vous?
Absolument,
aussi.
Absolument, ouais.
Simple,
ouais.
Ouais.
Pareil, je connaissais pas ce morceau-là, mais ouais, j'ai une grande passion pour le reggae, surtout Bob, j'avoue. Ouais, qui m'influence sans m'influencer, parce que je me sens pas légitime de faire cette musique-là. Je pourrais, mais
oui,
il y en a qui l'ont fait en France, en tout cas.
Tout à fait.
Elle accompagne, le reggae accompagne beaucoup ma vie, ouais.
Deuxième titre. C'est pas très radiophonique, mais Slim Paul, c'est vous qui avez levé la main en premier.
C'est pas très radiophonique, c'est désolé. Non, parce que je suis fan, alors que je suis trop vieux pour être fan de qui que ce soit, mais c'est peut-être le dernier artiste à qui je peux dire je suis vraiment fan.
Jim Hendrix.
Ah ouais, complètement.
Vous l'avez découvert comment?
Je l'ai découvert en échangeant un CD avec mon voisin, j'étais jeune, j'avais 15 ans, je commençais à peine la gratte, et j'avais entendu parler d'Hendrix. Enfin, j'avais écouté peut-être un ou deux, celui-là certainement. Et lui, il connaissait pas Ben Harper. Moi, j'ai commencé la gratte en écoutant Ben. Et on a fait un échange de CD. Et je me rappelle être à la fenêtre de ma chambre en écoutant le truc. Hein, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi.
Et donc ça, vous avez échangé Ben Harper avec Jimi Hendrix.
Ouais, c'est ça.
Bon, ça va,
c'est une bonne affaire.
Ouais.
C'est une bonne affaire.
C'est une bonne affaire.
Ah, c'est une bonne affaire.
Très bien. Troisième titre. Oh, woman, oh, woman, oh, treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Alors pour Matthew Bogart ou pour Slim Paul?
Ah, je prends aussi. Hein.
Bah voilà, c'est pour tout là. C'est que là, du bon.
Comment tu veux. Ouais. Ça me fait halluciner d'ailleurs d'entendre à quel point ça sonne aussi bien. Malgré, je sais pas, 40, 50 ans. De...
C'est Richard Anthony, hein, c'est ça?
Non, ouais, c'est ça.
Richard Anthony.
Ça commence pareil presque. Ray Charles. Ouais. Troisième, quatrième titre. Il sera pour vous, Mathieu. Il avait un tout petit zizi et un grand cul. Le père Ubu. Madame était une femme infâme et tout dodu, la mère Ubu. Bête et méchant, les deux emmerdants n'aimaient que l'argent et la crème Mont Blanc. J'imagine que ça ne vous dit pas grand chose.
Ça ne me dit pas grand chose.
Ah, c'est vrai, Slim Paul, alors vous allez le renseigner.
Moi, ça me dit tout, ça tombe bien.
Ah oui, tout.
Ça, c'est ma tendre enfance, vraiment. C'est vraiment la chanson que j'ai écoutée enfant. Je me souviens sur les genoux de mes parents à écouter ça. Et d'ailleurs, j'étais convaincu d'avoir un petit zizi entre mes 13 ans et mes 25 ans. Parce
et un gros cul.
Que mon père me chantait ça tout le temps.
D'accord.
Puis un jour, j'ai compris que pas forcément. c'était, d'ailleurs, il y a ma vie avant, ma vie après. Donc Dick Hangard, oui, voilà. Faut-il le représenter?
Bah surtout qu'en plus, vous avez travaillé avec lui, où il y a eu vraiment toute un passage de relais. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans vos compositions?
Alors c'est pareil, c'est assez inconscient, je sais pas vraiment, je dis pas que je suis un petit oisillon tombé du nid qui fait des chansons comme
non.
ça, parce que c'est très long, c'est beaucoup de travail, mais d'où vient mon inspiration, mon il y est pour beaucoup, parce que je me souviens, donc là, ce que j'évoquais c'était ma période que j'avais 7-8 ans, je n'ai plus écouté, et à 20 ans un copain m'a dit « Ah tu connais Dick Hangard ?» Dick Hangard, ça me dit quelque chose. Il me fait écouter ça, du moins cet album-là, et là, je...
tout de suite,
je me dis, mais c'est ça, en fait, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je copie, en fait, enfin, c'est ça que je, vers quoi je tends. Voilà, donc c'était, mais ça fait un bout de temps, ce dont je parle, c'était il y a 30 ans.
Justement, 30 ans plus tard, on va voir ce que ça devient. Ouais. Mathieu Bogart, en anglais. Je vous laisse gagner le micro, où il y a eu des balances tout à l'heure, tout s'est bien passé.
Vous enlevez,
ah oui, s'il vous plaît. En plus, vous êtes super loin de nous. D'ailleurs, la réverbération nous l'a montré. Ouais. Mathieu Bogart, guitare, micro, voix, un extrait du nouvel album en anglais.
I can't see your smile, and I don't know why. I can't see your smile, I just see a tear coming from your eye. I can't see it here, nearby, but I'm sorry my dear, no I don't know why, I can't see your smile. I've been waiting for a little bliss, waiting and waiting for a long time, something I miss. But I've seen nothing, nothing on your lips, nothing on your lips. I can't see your smile, and I don't know why. I can't see your smile, I just see a tear coming from your eye. I can't see it here, nearby, but I'm sorry my dear, no I don't know why. I can't see your smile. Yes, I've been looking for your happiness, looking and looking more and more or less. I've seen nothing, nothing on your face. No, I can't find the place. I can't see your smile, and I don't know why. I may be blind, I may be blind, I may be blind, 'cause I can't find, no, I may be blind, I may be blind, I may be blind, 'cause I can't find your peace of mind. Is it inside? Just see you cry.
Merci. Mathieu Bogart, en live et en anglais, avec un accent terriblement français, vous l'aurez compris. Après les années que vous avez passées à Londres, ne me dites pas que vous avez cet accent-là. Je suis sûr que non, en plus.
Alors non, en fait, si je veux faire l'illusion d'être anglais ou américain, I can speak with an American accent, and you will maybe probably think I'm American or kind of, je sais. Mais par contre, pour moi, chanter, enfin en tout cas quand je me mets à chanter mes chansons, comme c'est quelque chose qui est connecté à l'intime, ça ne peut pas sortir avec un accent. C'est dit, quand je prends un accent, quand ce que je viens de faire, je prends un masque, je fais semblant, ça me fait rire, mais je peux pas le faire. Donc pour moi, la chanson, c'est la vocation de ma chanson, c'est d'être l'expression de mes sentiments intimes. Donc chanter dans une langue étrangère, a priori, ça devrait être un peu impossible parce que intimement je suis français. Néanmoins, comme l'anglais c'est une langue très très présente dans nos vies, je crois qu'il y a 3 fois plus de signes anglophones à Paris que de signes allemands pendant l'occupation, par exemple.
Par exemple, oui.
C'est quelque chose qui en moi, j'ai des mots qui sont quand même intégrés, et donc je n'ai puisé que dans ces mots qui étaient que je peux incarner naturellement sans faire semblant. Voilà. Et après, il y a autre chose, c'est qu'il y a pas mal de mots anglais que je ne peux pas faire sonner. Par exemple, tous les mots avec des R, enfin, pas tous, mais beaucoup. Par exemple, si je dis really,
oui.
C'est laid. Enfin, j'aime pas, quoi, really. Donc, c'est où je dis really, mais du coup, ça fait un peu it's not because you are me, I am you.
Oui.
J'aime bien aussi, mais c'est trop drôle. Donc, il y a plein de mots que je pouvais pas utiliser parce que j'arrivais pas à les faire sonner dans ma bouche. Et donc, c'est un peu une contrainte assez stimulante. Marion ?
Tout à l'heure, pendant la balance, Mathieu, vous avez demandé à Nicolas, qui a fait la prise de son, de mettre beaucoup votre voix en avant. Et c'est curieux, parce qu'en général, vos confrères, vos consoeurs, chaque fois qu'on fait une balance, un live, ils demandent toujours de rentrer la voix, d'être le plus près possible de votre instrument.
Alors moi, j'adore les voix fortes, et je trouve que c'est... En fait, je suis toujours celui qui met la voix plus fort. À chaque fois que je fais des concerts, l'ingénieur du son, il dit « Ah bon, t'es sûr ?» Et en fait, tous les disques que j'aime, et les vieux disques, la voix est très forte. Quand on écoute Gainsbourg ou Brassens, c'est hallucinamment plus fort que ce que je viens de faire, ou tous les chanteurs. Et en fait, je trouve que c'est un leurre de penser que si la guitare est moins forte, on entend moins. Au contraire, elle est sur un autre plan. C'est comme un tableau. Si jamais il y a deux personnages qui ont la même taille, on les remarque moins alors que s'il y en a un petit derrière et un gros devant. Donc c'est vraiment ça. Donc je trouve ça plus musical, en fait.
Vous partagez cette conception, Slim Paul ?
Je fais pas exactement la même. Je viens pas exactement du même.
Ben non, c'est pas du tout le même univers.
Et du coup, ça se mixe pas vraiment de la même manière. Et moi, c'est vrai que j'aime bien rentrer la voix selon. J'aime bien quand la voix est un peu et bien entourée par des éléments bien ample.
On verra ça tout
batteries,
à l'heure.
Des grosses batteries, des grosses guitares,
justement avec le premier titre.
Je comprends ce que dit Mathieu, et surtout quand c'est des chansons comme ça avec des voix pas murmurées, mais on sent il y a beaucoup d'air en fait dans la voix. Et c'est vrai que ça marche très très bien.
Alors cet accent anglais dont on parlait, on l'entendait déjà en 2008 dans l'album I Love You sur ce titre du même nom, I Love You.
Sitting, yes I am, looking for to know if you do like me too, if you really feel the same, do you like me to like you, comme moi, je vous aime, I love you, you love me, I love you, you love me, I love you.
Comment vous voyez justement cette évolution, Mathieu Bogart?
Alors ce disque qui s'appelait I Love You, il y avait beaucoup d'anglais, mais c'était plutôt l'anglais que nous, non-anglais, on s'approprie et on mélange avec du français, avec des traductions littérales, donc c'était pas...
C'est pas le même projet du tout, ouais.
Mais c'est pas le même projet. Là, le projet d'écrire en anglais est né d'une frustration vraiment très forte que j'ai eue une fois arrivé à Londres, parce que j'ai vécu 4 ans à Londres.
Ouais.
Encore plus ou moins, mais pas très longtemps. Et moi, chansonnier, moi qui ai vocation à écrire des chansons, je me suis dit, mais en fait, dans ce monde, déjà, c'est un autre monde, c'est Londres, je me suis senti complètement étranger, je me suis dit, mais ces gens autour de moi... Ils pourront jamais comprendre mes chansons, etc. Donc j'en ai écrit une première, puis une deuxième, et après je me suis dit, tiens, allez, chiche, tu fais un album entier. Et j'aime bien les contraintes, c'est assez stimulant. J'aurais peut-être pas fait ça sur mon deuxième disque, mais comme c'est l'8e, j'aime bien lui donner une identité forte.
Mais qu'est-ce que vous êtes allé chercher en Angleterre avec Femmes et Enfants en 2016? Pourquoi fallait-il partir? Les voyages, ça a toujours été votre truc. Hein.
Ouais.
Vous aviez enregistré, je me souviens, en Suède ou en Norvège, je crois,
ouais, tout à fait.
Un des premiers. Plus tard, ça a été à Bruxelles. Paris, ça n'a jamais été vraiment le truc. Vous étiez même allé pour promeneur, je me souviens, en Ouzbékistan, au Kazakhstan, enfin, absolument partout.
Bravo.
Donc, pour quelle raison avoir choisi l'Angleterre cette fois-ci?
Alors, c'est vraiment un hasard. En fait, j'étais prêt à partir vivre un an à l'étranger. Ça aurait pu être en Albanie, ça aurait pu être pas trop trop loin de la France si j'avais... Voilà, puis un heureux concours de circonstances a fait que c'était à Londres. Mais quand j'étais adolescent, je fantasmais pas trop sur Londres. Je me disais pas... j'avais pas de drapeau Union Jack sur mon sac US, j'avais plutôt un drapeau jamaïcain. Donc je suis arrivé à Londres sans grand projet, si ce n'est d'avoir une expérience de vie, me confronter à une autre réalité. Il y a tellement de réalités dans ce monde que l'idée que ma vie se résume à une, ça a toujours été un peu frustrant. Mais là, putain, à chaque fois que je voyage, je me dis « Ah, j'aimerais bien habiter là, voir ce que ça fait ». Donc là, j'ai eu l'occasion de le faire. Ça devait durer un an, ça a duré 4, pour plein de raisons. Et la première, je ne peux pas parler trop longtemps, la première, c'est que c'est tellement insaisissable comme culture par rapport à nous, en tout cas. Et c'est tellement une ville qui est grande et diluée que... En un an, j'avais l'impression d'avoir rien compris. Il était hors de question de rentrer en n'ayant rien compris. J'ai toujours pas compris grand-chose, mais là, au bout de 4 ans, je vais pas y passer ma vie non plus.
Ils vous ont foutu dehors avec le Brexit?
Pas vraiment, non. J'ai pas ressenti ça.
Et quand vous y étiez, c'était la période où il y avait les référendums, le Brexit pour ou contre, tout ça. Comment vous avez vécu cette période, vous?
Alors moi, je suis arrivé juste au moment où le Brexit a été acté. Voilà, pour moi le Brexit c'est pas un gros mot, c'est pas quelqu'un qui vote pour le Brexit, c'est pas un con, c'est pas un méchant, c'est pas... On demande à des gens, est-ce que vous voulez retrouver un peu de... Je sais pas de... Comment on dit de... Je trouve pas le mot, parce que je pensais
souveraineté.
Pas... Souveraineté, voilà. On dit oui, non, bah l'un qui dit ah oui, d'autres qui disent non, et puis finalement c'est 58-40, bon voilà. Enfin bref, j'étais pas vexé, je suis pas arrivé dans un pays en me disant on ne me veut pas.
Est-ce que vous avez connu la scène où
une ou plusieurs scènes musicales quand vous étiez à Londres.
Oui, alors j'ai mis vachement de temps à la trouver. Pendant très longtemps, j'étais très frustré en me disant « mais c'est où que ça se passe ?» Souvent en France, on se dit « oh là là, dans les centres-villes de capitale, de région, toutes les villes se ressemblent, c'est les mêmes enseignes, etc. » Et arriver à Londres, c'est x10 en fait. Vraiment, là, c'est une ville qui est assez uniforme dans les... Donc il y a beaucoup de trucs assez fades à Londres. On se dit « mais c'est où que ça se passe ? C'est où qu'il y a un truc un peu personnel ?» Et j'ai fini par trouver au bout d'un an et demi, ce qui est long, les quartiers un peu alternatifs où d'un seul coup, il y avait plus de créativité. Et j'étais voir plein de concerts et c'est souvent très très bon marché, malgré ce qu'on peut croire. Bon, il y a 3 concerts pour 10 euros. Et j'ai vu à chaque fois des trucs très très... vachement d'originalité, de vérité. Quelque chose de vraiment des vraies choses.
Est-ce que ça a eu un impact sur votre musique ? Pas véritablement, j'ai l'impression.
Peut-être, mais peut-être sur le prochain. On va dire que j'étais déjà trop en train de faire celui-ci pour que ce que j'écoutais là-bas ait une influence. Et si influence il y aura, et il y aura certainement, ça sera pareil, c'est assez inconscient. Qu'est-ce que je vais retenir de ça ? Je ne sais pas encore.
Vous êtes déjà allé à Londres pour travailler ? Non, plutôt vous, c'était les États-Unis, hein, Slim Paul, on en
parlait
tout à l'heure.
J'ai passé un petit peu de temps aux États-Unis, quelques mois, on va dire. Et Londres, j'ai joué il y a 10 ans, je crois, dans un petit pub. Et pas plus que ça. Quelques festivals en Angleterre, mais pas plus que ça. Mais j'aime beaucoup cette ville.
C'était pour votre groupe ?
C'était pour Scarecrow, ouais.
D'accord. Pas plus que ça, je pensais quand même que là-bas, justement, non, ça pouvait marcher pour un groupe comme ça.
Ah oui, c'est vrai. Bon, ici, aux États-Unis, on avait fait une petite tournée au Texas. On avait fait un passage obligatoire à la Nouvelle-Orléans. Et moi, après, j'y suis revenu en solitaire pendant 3 mois. Pour justement un peu... au moment où j'ai voulu arrêter le groupe Scarecrow et écrire mon premier album Dead Already, j'avais besoin d'une cassure, j'avais besoin de me prendre ma guitare et mon sac et de me barrer.
D'aller voir alors voilà. Ce qui se passe. Ouais.
Et voilà, donc j'ai passé un petit peu de temps là-bas. C'était pas forcément la destination qui était importante, en fait.
Quand même, on en parlera parce que ça a changé, notamment au niveau du son que vous avez travaillé.
La trame de l'album là-bas. Ouais.
On va écouter tout de suite un extrait de ce nouvel album, parce qu'on vous a écouté en guitare, voix et sifflement. Ouais. Mais là, voilà ce que ça donne dans l'album, un extrait « Am I Crazy ?»
I like the blue, I like the green, I don't like two, two choose between. I like the two, you see what I mean. I like the blue and all the colors I've seen. I like the blue sky and the sea. I like, I do. I like this tree. Am I crazy? Orange is nice.
Paroles, musique, production, enregistrement, arrangement, vous signez tout. 2 musiciens crédités, vous et Vincent Mougel,
oui,
qui est un complice de longue date maintenant.
Oui.
C'est parfait ça pour un producteur. Pour un label, on se dit putain, 2 musiciens, vous faites tout.
Par contre, on est payé le prix de 5.
Hein, oui, ben voilà, j'espère bien pour vous. Vous contrôle fric, c'est ça le truc ou...
Oui, tout à fait. En fait, produire des disques, j'ai réalisé tous mes disques, j'en ai fait 8, puis, et aussi celui de la chanteuse Luce que j'avais écrit. Ouais. Et pourtant, je suis un piètre réalisateur de disques dans le sens où le ratio temps passé, résultat obtenu, c'est vraiment... c'est-à-dire qu'un mec normal, il met 3 heures pour faire ça, et moi j'en mets 22, je pense. Et vraiment. Et donc, autant écrire la chanson, je suis très lent de manière générale, mais j'ai toujours finalement, j'ai tellement peur que le truc m'échappe. Une fois que ma chanson est terminée, quand j'arrive à une justesse dans les mots, ouais, dans le truc, et qu'il est question de fixer ça sur un disque, c'est toujours « Ah, mais est-ce que quelle guitare prendre ? Est-ce que je l'enregistre le matin, le soir, dans tel studio, micro 12, micro 3, est-ce que je la refais ?» Et donc c'est pour ça que je fais souvent ça de manière assez artisanale dans mes propres studios avec du temps. Et là on a fait ça à 2, et Vincent Mougel, c'est un musicien super avec qui j'ai fait la tournée précédente. Voilà.
Et quand vous dites que vous perdez du temps, vous perdez du temps à quoi exactement ? Il se perd où ce temps ?
Alors c'est 1000 étapes, c'est pas assez de temps de développer, mais c'est par exemple dans ce qu'on vient d'entendre, on entend quoi, une voix, une guitare, une basse, une batterie et puis des petites guitares qui viennent
ça
animer.
Ça fait déjà pas mal de choses.
Voilà. Et ben pour arriver à la bonne prise de voix qui va faire en sorte qu'on va choisir telle guitare et tel machin et tel truc, enfin, c'est plein de questions et sûrement trop d'ailleurs. Et la seule vocation de ces questions, c'est de pas perdre le sentiment originel. Voilà, là quand j'écoute ça, je me dis ok c'est bon, là ce que je ressens, c'est ce que j'avais envie de dire la première fois où le truc m'est venu. Et l'idée, c'est pas de perdre ça.
Sans être parasité par quelqu'un d'autre. Une question, parce qu'on parle de voyage tout à l'heure, donc je pense à Valise. Est-ce que vous avez toujours cette malle dans laquelle vous aviez pendant il y avait une époque où vous stockiez, toutes les trois semaines, vous déposiez un objet dans une malle. Vous en êtes toujours à ce truc obsessionnel?
Tout à fait. Alors, c'est pas toutes les trois semaines, c'est pas genre, ah mince, c'est aujourd'hui, il faut que je dépose un truc dans la malle. Non, mais ça aurait pu être ça, c'est pas ça. Ouais. C'est pas un rituel chaque trois semaines. C'est chaque fois que je tombe sur, enfin, que je ne sais pas quelque chose que je cherche, mais je vais tomber sur un objet qui représente une tranche de vie, une époque, une personne, une rencontre, un voyage. Et je sais que c'est cet objet, ça peut être quelque chose d'insignifiant pour quelqu'un. Et je pense que si vous ouvriez cette malle, vous n'y trouverez absolument rien qui vous intéresse. Un morceau de plastique, une clé, un machin. Mais c'est vrai que j'y tiens, je continue à faire ça, mais je le loue jamais, en fait.
Vous êtes les Sophie Gagne de la malle.
C'est
Mathieu Bogarde, vous restez avec nous. On va retrouver Slim Paul dans quelques instants. Marion aussi qui a un rendez-vous au téléphone. Mais d'abord, votre choix playlist, Mathieu. Vous avez tout regardé, tout écouté. Et vous avez choisi dans la playlist de France Inter Nicolas Michaud, qu'on adore ici. Une seconde chance, c'est le titre. Vous nous expliquez cette programmation?
Alors, je suis tout à fait honnête à la radio. Je vais tout à fait honnête avec vous. Je n'ai absolument rien écouté. Parce qu'en ce moment, je suis en promotion. Et je suis ravi de l'être parce que c'est un plaisir d'avoir des gens qui m'en parlent, etc. Donc c'est des moments très grisants, c'est une vraie joie que ces chansons soient enfin disponibles. Et on m'a posé la question vendredi, choisir une chanson parmi cette playlist. D'accord. Il y avait à peu près 40 choses.
Ah bah oui, bien sûr.
Et donc
je sais bien que vous n'avez pas tout écouté.
Et donc je me suis dit, je peux pas tout écouter. Non. Donc j'ai cité trois artistes que j'ai rencontrés, pas forcément humainement, mais qui m'ont touché par leur personnalité, par leur personnalité. Et donc, il y avait en l'occurrence Nicolas Michaud. Mais je vais découvrir la chanson avec vous.
Eh ben, c'est parfait. En direct avec okay. Mathieu Bogarde, Nicolas Michaud. Une seconde chance sur France Inter.
Sur France Inter.
Une seconde chance, mais non, la première pour Marion Guilbault. On va voir si le téléphone fonctionne. Ben c'est sûr. Surtout ça la chance, Marion.
Allô ?
Allô ?
Ah, il y a quelqu'un
au
téléphone.
Ça marche.
Mais ouais, il y a quelqu'un.
Mais bien sûr, demain, journée spéciale Serge Gainsbourg sur France Inter. Et dans Côté Club, eh ben, on prend un peu d'avance ce soir avec Alex Baupin qui est au bout du fil. Il sera demain en concert, un concert enregistré le 22 janvier dernier depuis le studio 104 de la Maison de la Radio de la Musique où il reprend les chansons de l'album Love on the Beat. Un concert présenté à 21h par l'amie Rebecca Manzoni. Alex, vous nous rejoignez ce soir, on est avec Slim Paul, avec Mathieu Bogertz. Alors avant de nous intéresser à cet album Love on the Beat, je me demandais quelle place avait eu Serge Gainsbourg dans votre éducation musicale.
Une place assez importante. En fait, c'était pas du tout curieusement un chanteur qu'écoutaient mes parents. Moi, j'ai découvert Serge Gainsbourg par cet album Love on the Beat dans les années 80. J'avais 10 ans quand c'est sorti.
Vous aviez 10 ans, c'est ça ?
Eh ben, j'avais 10 ans, ouais, mais j'écoutais déjà des cochonneries. et ça m'avait assez à la fois choqué et troublé à l'époque, je me souviens. Et puis après, un peu plus tard, vers 15 ans, ils avaient sorti une première intégrale de Gainsbourg en 9 cassettes, je me rappelle. Ouais. C'était un cadeau que je m'étais payé avec de l'argent de mon anniversaire. Et c'est là que j'ai plongé dedans et puis je ne suis jamais vraiment remonté du fond de la piscine, quoi.
Love on the Beat est sorti en 1984. Vous aviez 10 ans, Mathieu Bogertz, j'ai regardé, vous aviez 14 ans, un peu plus en âge peut-être de comprendre le sens des paroles assez crues de cet album. Vous avez quel souvenir, vous ?
Un peu choquant, ouais. Effectivement. Et puis, comment elle s'appelle, son ex-femme, là, je ne sais plus.
Jane Birkin.
Non, Bambou. Justement.
Bambou
qui crie au loin. Enfin, il y avait un truc assez inquiétant, comme ça. Et puis, il y a beaucoup de gens qui snobent un peu ces disques en disant oui, c'est moins bien. Puis en fait, c'est tellement bien. Enfin, en fait, c'est pas moins bien du tout.
Ouais, non, mais c'est vrai.
Bah oui,
et Slim Paul, vous ?
Concernant.
Gainsbourg, dans votre éducation ?
Il a été présent toute ma vie et j'adore toutes les différentes époques. Je me suis retrouvé dans chacune de ces époques et aussi notamment dans les années 80. Même si j'étais très jeune, moi je suis né en 84.
Mais oui.
Mais je l'ai vécu en retard, on va dire. Mais
tout le monde autour de cette table est né en 84.
Sachez-le.
Tout le monde, sachez-le.
Love on the Beat pour Serge Gainsbourg, Alex Baupin, c'est un disque de rupture avec les précédents. Hein. C'est pas vraiment l'album préféré des puristes, comme on dit. Ici, en général, non. L'homme à la tête de chou, Melody Nelson. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé plus précisément dans cet album pour le choisir, pour choisir de le reprendre en live?
Déjà, il y a cette raison sentimentale que j'évoquais, c'est que pour les gens de ma génération, c'est souvent l'album par lequel... Enfin, c'est ce Gainsbourg-là qu'on a connu. Nous, on a connu Gainsbourg avant de connaître Gainsbourg. Le Gainsbourg un peu plus chic de Melody Nelson et L'homme à la tête de chou, tout ça. Et puis, moi, c'est un album qui m'a jamais vraiment quitté, que j'ai écouté depuis que j'ai 10 ans jusqu'à aujourd'hui. Et il y a un son dans cet album qui m'a toujours un peu fasciné, intéressé. Et puis c'est peut-être justement dans cet album le mélange entre des chansons tragiques, des chansons notamment homosexuelles qui sont des chansons vraiment tragiques, des chansons pornographiques comme cette longue chanson qu'est Love on the Beat, et puis des chansons un peu plus Gainsbourg, un peu plus presque, c'est pas du comic troupier, mais une chanson comme Harley Davidson of the Beach par exemple. Je pense que, enfin, ça sent la chanson écrite comme ça, presque comme une farce. Et en même temps, moi, cet aspect-là du personnage, comme elle fait partie de lui, je trouve que moi, je prends tout quand je prends un artiste et je prends aussi ce côté Gainsbourg chez Gainsbourg qui m'intéresse ou qui m'amuse parfois, quoi. C'est ça que j'avais envie de refaire.
Je vais rebondir, Alex, sur ce dont parlait tout à l'heure Mathieu Bogart, le fait qu'on entendait Bambou qui criait derrière, comme s'il était flagellé. Enfin, c'était moi aussi, ça m'avait particulièrement troublé. Dans le concert qu'on va entendre demain, il y a une fille qui crie, ou alors vous la jouez protestant ?
Non, je m'étais posé la question de savoir si je fallais pas que je fasse une compilation pour être un petit peu comme ça, artiste contemporain de gens.
Été maltraitée pendant le tournage.
De gens qui crient sur Pornhub, par exemple. Je me disais que j'aurais pu faire une petite compile, et puis finalement. Il y a les cordes qui miaulent et quelquefois ça suffit à faire ressentir un acte sexuel des cordes.
Alors Alex, le son de cet album, on vient de le dire, hein, il était très funky, très années 80, c'était vraiment le marqueur d'une époque. Comment vous avez travaillé avec le Philharmonique de Radio France, dirigé par la chef Alexandra Cravero, pour remplacer ces guitares cocottes, hein, ces boîtes à rythme ? Moi j'ai juste entendu un tout petit peu sur votre Instagram, j'ai l'impression que vous avez tout passé en mode mineur.
Alors, l'album est de toute façon en mode mineur. C'est beaucoup de montées, de descentes chromatiques dans l'album. C'est marrant parce que dès qu'on met des cordes, ça fait presque penser à des musiques de James Bond, cet album. Et moi, j'ai fait arranger ça par une jeune fille qui travaille avec moi depuis longtemps, qui s'appelle Valentine Dutheil, qui a fait un énorme travail pour reprendre toutes les harmonies, tous les riffs de guitare et essayer de les adapter pour un orchestre à cordes. Et puis, alors ça, c'est un peu le côté love de l'album. Et puis, comme il fallait quand même du beat, j'ai fait appel à un garçon qui s'appelle Sandy X, et qui a été le beatmaker de cet album et qui a rajouté des rythmes dont certains peuvent évoquer ce qui était utilisé dans l'album. Et puis, d'autres fois, on a essayé de s'éloigner un peu. Mais en fait, il y avait l'idée, ouais, il y avait cette idée qu'on entende peut-être un peu plus les harmonies qui existent dans les chansons originales et que peut-être qu'on entendait moins dans l'album. Et moi, j'avais envie qu'on les entende avec des cordes parce que ça m'amusait de les entendre comme ça, voilà.
Dernière question, Alex. C'est un disque qui marque aussi la rencontre de Gainsbourg avec un public très jeune. C'est un disque qui a connu un succès populaire immense. Un disque pourtant antifamilial au possible, hein, comme on dit. Est-ce qu'il pourrait sortir aujourd'hui, un disque comme ça?
Alors moi, je me suis posé la question, en tout cas, de comme j'avais décidé de reprendre l'album dans son intégralité, il n'était pas question de faire l'impasse sur aucune chanson et de prendre une forme de censure, mais que ce soit Love on the Beat ou même une chanson comme No Comment, dans laquelle il y a une crudité des paroles, enfin il y a même des obscénités, des injures et tout, enfin cette chanson où il dit qu'il baise avec des salopes, des putes et des gamines de quel âge. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est peut-être difficile d'entendre ces chansons-là.
Tu l'as dit, pourtant, tu l'as dit.
Ouais. No comment.
No comment.
On avait tous envie de dire no comment.
Je vais le redire demain, en plus. Mais moi, je crois que comme ça fait partie du... Puis, je crois qu'il y a un côté aussi un peu farce dans ces chansons-là et qu'il y a un vrai... Voilà, c'est surtout d'un coup, cette chanson, No comment, c'est son personnage de Gainsbourg qui nous dit, alors vous imaginez que je suis un atroce personnage, et ben... Je vais faire encore pire que ce que vous imaginez. Mais si vous me demandez quoi d'autre, c'est-à-dire peut-être des choses plus intimes, là, je vais dire No Comment. C'est ça qui me touchait, moi, dans cette chanson-là.
Slim Paul, si on vous avait proposé de reprendre un album de Gainsbourg, vous auriez repris lequel?
C'est une bonne question, ça. Moi, j'aime beaucoup Gainsbourg des années 60. Comic Strip, je crois que c'est mon album préféré. Mais bon, il y a La Matée de Chou, c'est que j'adore. Melody Nels, je ne sais pas.
Ouais, plutôt le côté chic. Et de votre côté, Mathieu Bogart?
Non, je peux pas répondre. J'aime tout, ça dépend des matins. Il y a un matin, je vais aimer un autre matin, je vais aimer ça.
Mauvaise nouvelle des étoiles, non?
Ah,
ça vous a
aussi,
pas si, si, bien sûr. Avec Nazi Rock et tout, ouais. Ce qui aurait été difficile à chanter encore aujourd'hui.
Oh oui.
Je sais pas, à vous penser.
Merci beaucoup, Alex Baupin. On vous retrouve.
Merci, les petits amis.
Demain soir, les grands amis.
Slim Paul est immense. Bon, Mathieu et moi, on se reconnaît. Dans
bon,
petits
d'accord,
amis.
Mais moi, non. On va vous retrouver donc demain soir à partir de 21h sur France Inter, l'Orchestre Philharmonique de Radio France pour le concert de Love on the Beat en hommage à Serge Gainsbourg. Un concert présenté par Rebecca Manzoni. Eux, ils n'ont pas connu Serge Gainsbourg, mais ils partagent une chanson avec sa fille Charlotte. Ce sont les Londoniens de Django Django avec Waking Up. Un titre qui exprime le soulagement du groupe d'avoir pu enfin sortir Glowing in the Dark, leur nouvel album après cette année si perturbée.
Django Django avec Charlotte Gainsbourg dans Waking Up. Charlotte Gainsbourg, qu'on retrouvera demain d'ailleurs sur l'antenne de France Inter, puisqu'elle sera l'invitée de Augustin Trapenard.
Côté club.
On pourrait écouter chez moi ou dans un club.
Sur France Inter.
Ce soir, Mathieu Bogart et Slim Paul sont nos invités au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Et un deuxième album pour Slim Paul, Good For You, c'est le titre. Le premier, c'était Dead Already en 2018. On va y revenir. Signe particulier pour les deux albums, le blues. Ça veut dire que vous êtes vraiment construit avec cette musique ou elle est arrivée sur le tard pour vous, Slim Paul ?
Déjà, la musique est arrivée assez sur le tard. J'ai commencé la guitare, j'avais quoi, 15-16 ans. Comparé à certains qui commencent le violon et le conservatoire à 4 ans, moi j'ai plus une éducation par la musique que j'ai écoutée. J'ai jamais pris de cours, je suis autodidacte. Donc ça a pris plus de temps, donc je tombe amoureux de mon instrument. Il y a eu un choc, je m'en rappelle, bien avant que je commence la guitare, c'était un vinyle de Little Richard de ma mère. Je me rappelle sauter sur le lit. C'est une révélation pour moi. Et des années plus tard, en fait, j'ai appris que ce qu'on appelait le rock and roll était juste une autre forme de blues et qu'elle venait d'encore plus loin. Du coup, je me suis amusé à aller chercher, aller faire machine arrière, en fait. Les années 40, les années 30.
Ah oui,
les
vous
années
êtes allé 20, jusqu'à, ouais, jusqu'aux années 20.
Je me suis passionné pour cette musique-là et cette culture-là, ouais. Après, il y a les années 60. Et puis après, il y a l'arrivée d'un mec comme James Brown, par exemple, ou Ray Charles, et puis le hip-hop. Et moi, je me suis amusé à trouver un lien, en fait, entre tout ça, parce que, ouais, pour moi, c'est la culture afro-américaine, en fait. Je me suis rendu compte que la culture afro-américaine était peut-être plus présente dans ma vie que la culture française. Mais, musicalement, je parle.
Et ce pseudo de Slim Paul, vous l'avez construit à quelle époque?
Il est arrivé juste après le mélange, justement, quand je me suis...
Mélange, donc c'est ce groupe dont on parlait.
Mon premier groupe, ouais. Et quand j'ai enfin trouvé mon style, le blues et le chant en anglais, j'avais besoin d'un personnage pour me décaler, et côté le chapeau, machin, et voilà, j'aimais bien les pseudonymes qu'avaient les bluesmen.
Les années 20, les années 30.
Ouais, voilà. Où il y avait souvent la caractéristique physique, en fait, du gars.
Ouais, Slim, vous l'êtes.
Slim, je le suis.
Faut le rester, hein, avec un nom comme ça.
J'ai de la marge, comme dirait une pote.
Avant de signer en solo, Slim Paul, il y a eu un groupe, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Pas mélange, hein, le deuxième. Et quel groupe ?
On fait de la musique, même face à l'orage. Pour ta maison de disque, une croix sur une page. Ici, on fabrique un vaste édifice. Envié par ton coup à chacun de nos passages. Des fonceries bocages qui prennent en otage. Une culture malade qui n'est autre que plumage. Un mort d'enrobage, un triste mirage. Voici un grain de sable de plus dans vos rouages.
Le groupe s'appelait Scarecrow, ça a duré quelques années. Vous avez circulé sur la scène internationale, plus de 500 concerts, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Pourquoi a-t-il fallu arrêter ce groupe pour signer en solo, Slim Paul ? Qu'est-ce qui se passait ?
J'ai fait un premier EP, en fait.
Pendant le groupe.
Pendant le groupe, c'est ça. Où j'avais envie de... Dans Scarecrow, c'était un projet de blues hip-hop. C'était notre concept. C'était l'étendard qu'on s'était mis nous-mêmes pour éviter aux autres de le mettre à notre place. Donc on s'est dit qu'on fait du blues hip-hop.
Ça a dû plaire aux journalistes. Ils ont dû
certainement
adorer.
Et moi, mon rôle, c'était le rôle du bluesman. Alors, on était quatre. Il y avait le rappeur DJ, le batteur, le bassiste et moi. Et j'ai commencé à faire un premier EP en solo pour justement sortir un peu de ça. Même si j'adore le blues, j'avais envie de me prouver que je pouvais faire autre chose et j'avais des envies de faire autre chose, des choses peut-être un peu plus intimistes. Et puis j'en ai fait un deuxième et puis un troisième. Et puis Scarecrow, on a fait beaucoup de choses j'avais l'impression qu'il fallait que je tourne cette page-là pour faire ce premier album Dead Already. J'avais besoin de vraiment tourner cette page-là parce que ce groupe, c'est 10 ans de ma vie. C'est un groupe que j'ai créé, j'ai mis beaucoup d'énergie dedans. Enfin, on a vécu plein de choses, donc c'était compliqué pour moi de faire les deux, en tout cas.
Et donc, pour cela, il a fallu partir, un peu comme vous avez fait, Mathieu Bogart, mais un peu plus loin, aux États-Unis, à New York. Et quelle est la scène que vous avez rencontrée, en fait, là-bas ?
Alors, j'étais très curieux de la scène jazz. Moi, je voulais vraiment aller voir les clubs de jazz, les grosses impros, le Fat Cats, le Smalls, ce genre d'endroit. Un peu de scène blues aussi, des jam sessions, tout ça, mais... J'ai fait beaucoup de ouais, de buff, essayer de rencontrer des gens pour j'avais envie de buffer, en fait, plus que vraiment construire quelque chose ou faire des vrais concerts, une carrière, j'en sais rien. J'ai surtout besoin de rencontrer des musiciens sans prétention et sans penser au lendemain.
Et c'est là que vous avez radicalisé donc cette direction blues.
C'est là où j'ai commencé à écrire l'album Dead Already et j'ai pensé à quel musicien je voulais pour quand je rentrerai. J'avais déjà pensé à, ok, je vais rentrer, j'ai envie de faire ça. Ça s'est dessiné là-bas. Voilà.
Et donc, c'était le retour à Toulouse.
C'est ça.
On va écouter That Line. De quoi est-il question dans ce titre? Parce que votre anglais est un peu plus, on va dire, sophistiqué que celui de Mathieu Bogart, et je ne suis pas sûr que tout le monde pourra comprendre les paroles.
J'ai pas l'impression. j'ai pas un super accent. J'ai le mien, en tout cas. Je pense pas qu'il y ait de bon et de mauvais accent. Ce morceau parle de la fête, en fait. Et de, j'avais envie d'assumer le fait que j'aime.
La vie nocturne.
Je suis un oiseau de nuit.
Vous êtes un bambocheur.
Un bambocheur. et voilà, je parle en fait du fait de dépasser un peu les limites des fois, quitte à avoir un peu mal à la tête le lendemain, mais d'une manière, je parle surtout du côté humain de la fête et du fait que effectivement les gens sont pas exactement les mêmes la nuit et un peu alcoolisés et ça peut créer des choses magiques des fois.
I was dead last night. Lurking in the neon light, and lighted by your devil's side. And you know I love to cross the line. Now when I go and seek for a drunken soul, trying to forget about my living hole. And I ain't gonna get no sign. But anyhow, oh, I will cross the line. Yes, you know I'd love to cross the line. I love the line. Yes, you know I love
the line, baby. Just one line. Give me the line, baby. Just one line. Give me the line, baby.
That Line, un extrait de l'album Good For You, un titre prémonitoire qui raconte bien qu'on est de quelque chose de beaucoup plus serein que le premier album signé Slim Paul. Tout de suite, je voudrais qu'on écoute en fait l'ouverture. Parce que cette ouverture m'a paru très étrange parce qu'elle donne un aspect qui va être développé par la suite. C'est peut-être même une sorte d'indice pour pouvoir écouter l'album. Love is what you get when you keep on. Love is what I hear when you blow on me, girl. When you blow on me, love girl. Is what you need. Oh, what you love in a second,
love in a second.
Love is what you get when you keep on moving. Une ouverture plutôt intéressante, beaucoup de cœur. La batterie arrive. Qu'est-ce que ça donne comme indice, Slim Paul, de pour cet album en fait?
Alors, il y a un truc que j'ai aimé faire, c'est la liaison entre le premier album et le deuxième album. Le premier album, le morceau de fin s'appelle Dead Already, et finit avec un battement de cœur qui s'estompe pour arriver à la mort. Et le nouvel album commence avec un battement de cœur, voilà, qui est progressif en fade, voilà, comme une renaissance un peu. Et un morceau qui parle d'amour universel. Je trouvais ça, le clin d'œil, je trouvais ça intéressant. Et après, c'est vrai que j'avais envie de, j'aime bien ouvrir, comme sur le premier album d'ailleurs, j'avais envie de, beaucoup de cœur, ouais. Ça m'amuse d'aller choper des harmonies, de faire en général une vingtaine de prises voix et on garde tout et puis on mixe différemment, certaines on vire, mais d'en faire beaucoup.
De trouver une dimension Godspell. Alors, c'est un album qui prend plusieurs directions. Il y a des ballades, un son plus rock, et puis ce titre, qui est lui seul, semble fonctionner comme un précipité de l'album. Ça commence comme ça.
Amazing blues, how sweet you are. I dream of you every day.
Bon, vous avez repris la référence, ça va, Mathieu Bogart.
Non, j'ai pas
non, pas c'est bon, pardon. C'est amazing.
Okay.
Alors, le titre commence comme ça, et voilà comment il va se développer par la suite.
In the world away to hell is a tonic baby for you whatever else always amaze me. In the world away to hell, baby, is a tonic.
Qu'est-ce qui s'est passé pour ce titre qui s'appelle Amazing Slim Paul pour que ça déroute de telle façon?
Alors c'est marrant parce que j'ai écrit le morceau, la deuxième partie du morceau en premier.
Ah, d'accord.
Et en fait je me suis amusé, je sais pas pourquoi, j'ai écrit le titre du morceau Amazing You. Je sais pas pourquoi ça me fait penser, j'ai chanté Amazing Grace dans la tête et je me suis dit, putain, essaye de faire peut-être une intro. Et voilà, c'est né comme ça quoi. Et du coup j'ai réécrit les textes. C'est un hommage au blues en fait, ce texte est un hommage au blues et je voulais un peu donner toutes les formes presque du blues que comme je l'entends en tout cas.
C'est parfait. Merci à vous deux, merci Mathieu, merci Slim Paul. Et ben voilà, c'est la fin de Côté Club. Mathieu Bogart, l'album en anglais vient de sortir. It's up to you maintenant.
Je suis juste.
Slim Paul, deuxième album, il s'appelle Good For You, et c'est vrai. Marion ?
Le concert d'Alex Baupin avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France pour Serge Gainsbourg, Love on the Beat, c'est demain soir à 21h sur France Inter.
Côté Club, c'est une équipe qui gagne avec Stéphane Le Guenec, je le vois, à la réalisation, à ses côtés, à la technique, Nicolas Delmas, Marion Guilbeault, Virginie Rouzic, Alexis Goyer sont à la programmation avec la collaboration de Margot Terre et bien sûr Muriel Pérez aux playlists. Demain, on a rendez-vous à 22h en direct ou alors absolument quand vous voulez, si vous nous podcastez, une émission Gainsbourg, etc. avec Arthur Teboul de Feu Chatterton, Yel et des surprises. Côté Club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir, donc à demain, mais juste une chose. Après le journal, vous avez rendez-vous avec Affaires Sensibles de Fabrice Drouel. Ce soir, les perdants magnifiques en politique. On parle de Lionel Jospin.